Chapitre 17. Quelques heures plus tard, Bobby dîne avec Carmen Davenport au Jakob Wirth, un restaurant allemand situé dans le quartier du théâtre. Bobby a choisi ce restaurant parce qu'il est suffisamment haut de gamme pour que deux fonctionnaires sentent que c'est une occasion spéciale, mais pas assez haut de gamme pour qu'ils soient obligés d'avoir recours à un usurier pour payer l'addition. Mais son esprit ne cesse de s'égarer. Il ne parvient pas à oublier son étrange rencontre avec Mary Pat. Ce n'est pas à ça qu'il a envie d'avoir la tête au cours du premier rendez-vous qu'il a réussi à avoir en 10 mois, mais il n'arrête pas de penser à ce doigt qu'elle a fait tournoyer en le pointant vers le ciel pour évoquer le silence. Quel silence, bordel! « Bon, allez, à coucher, » dit Carmen. « Quoi ? Sortez ce qui vous rend distrait. Peut-être que je suis un peu nerveux. Non. » Elle étale sa serviette sur ses genoux, rectifie la position de sa chaise par rapport à la table. « Vous n'êtes pas là, dans ce restaurant, avec moi. Et je me suis faite plutôt belle, au cas où cela vous aurait échappé. » Elle porte une blouse paysanne blanche sur une jupe en jean et des bottes qui lui arrivent aux genoux de la même couleur acajou que le bar. Ses cheveux sont coiffés un peu différemment du soir où ils se sont rencontrés, lui tombant sur les yeux en une courbe plus marquée. Et elle a plus de bijoux. Un tour de cou en argent qui va avec le bracelet à son poignet gauche et de fines créoles en or blanc aux oreilles. Le vert de ses yeux est si pâle qu'il est presque translucide. Cela donne à Bobby l'impression qu'elle peut voir jusqu'au fond de lui. Il lui dit qu'elle est belle. « Pas trop tôt, » répond-elle. « Ok, maintenant arrêtez de vous torturer comme ça. Qu'est-ce que vous avez en tête ?»«
Vous. »
Elle ricane et lui fait un doigt d'honneur. « Je préférerais que vous me disiez ce qui vous préoccupe plutôt que de rester préoccupé et finir par me mettre en rogne. » On leur sert leur boisson. Vin rouge pour elle, une bière pression pour Bobby. Et ils portent un toast à leur premier rendez-vous avant de boire. Bobby lui parle d'Oggy Williamson et de tous les témoins qui ont vu les 4 jeunes le poursuivre près de la rame de métro. Il lui raconte qu'Oggy a été découvert mort au bord des rails le lendemain matin et que certains témoins ont confirmé qui pouvaient être ces 4 jeunes, tous les 4 de ça aussi, 2 filles, 2 garçons. Et que juste au moment où ils en tenaient 2, des avocats associés à Marty Butler ont débarqué et les ont sortis de là.
« Et les 2 autres jeunes ?» demande-t-elle.
« Il y en a un, c'est un dur. En fait, c'est le plus coriace des 4. Et il est personnellement lié à Marty, donc il ne dira pas un mot.
« Et l'autre ? La fille ?»«
Personne ne sait où elle est. »«
Elle est morte ?»
Le bruit court qu'elle serait en Floride.
Vous n'avez pas l'air de le croire.
J'ai des doutes sur cette hypothèse, admet-il. De ces 4 jeunes, je ne vois pas pourquoi elle représenterait une menace particulière. C'est là-dessus que je bute.
Carmen réfléchit à la question en prenant une gorgée de vin. Et elle l'observe avec une intensité tranquille qu'il trouve si séduisante qu'il a tout de suite envie de fuir. C'est un trait de famille chez les Coyne. Au moindre sentiment de bonheur, on fuit. Parce que la seule chose susceptible d'arriver après le bonheur est la souffrance.
« Merci, maman, » pense Bobby. « Merci, pa. Quelle vision des choses vous avez donnée à vos enfants. Vous avez été vraiment super, tous les 2. »
« Vous avez là une fille qui a peut-être été témoin d'un meurtre ?»
dit Carmen.
« Qui a peut-être été... impliquée dans ce meurtre.
Ou non. Ses yeux pâles s'agrandissent pour souligner cette idée. Elle est simplement avec eux au moment où ils le commettent, et après, peut-être qu'elle a des remords inopportuns.
Ça se pourrait, convient-il.
Bobby a une brève vision de Mary Pat aujourd'hui. Cette lueur trop brillante dans ses yeux, ces éclairs soudains de désespoir et de souffrance. Le silence.
Vous avez des enfants ? Demande-t-il à Carmen.
Elle fait oui de la tête. J'en ai un. Il est à la fac maintenant. Une chose au moins que je n'ai pas ratée. Je m'en suis occupée tout au long des années de lycée, avant qu'il prenne son envol.
Bobby la regarde avec attention. Vous l'avez eu quand vous étiez au lycée ? Elle sourit.
Malicieux et beau parleur. Non, Bobby, je ne l'ai pas eu au lycée. J'avais 19 ans. Et lui en a 19 aujourd'hui, alors faites le calcul.
Bobby ouvre la bouche en feignant la surprise horrifiée. Vous avez 4 ans de plus que moi ?
Ouais, mais manifestement j'ai davantage pris soin de moi.
Bobby éclate de rire. Il ne se souvient pas quand il a ri aussi librement pour la dernière fois. Une seconde après, Carmen éclate aussi de rire. Elle lui prend la main dans la sienne et fait glisser son pouce au creux de sa paume.
« On commande ?» demande-t-elle.
« Bien sûr. »
Mais ils ne le font pas avant un certain temps.
Ils restent assis là, à se jauger mutuellement.
« Vous avez des enfants ?»
demande-t-elle. « Un seul. Il a 9 ans. Il vit avec sa mère les jours de la semaine. »
« Alors permettez-moi de vous poser la question. Que feriez-vous si quelqu'un faisait du mal à votre enfant et si la police refusait de faire quoi que ce soit à ce sujet ?»
Bobby voit Brendan, ses yeux et son sourire pleins d'espoir, sa gentillesse et son désir manifeste de voir heureux tous ceux qui sont autour de lui. Un désir qui fait peur à Bobby, autant qu'il l'émeut. Si le monde lui faisait du mal, lui faisait vraiment du mal, resterait-il quelques morceaux de Bobby qu'il serait possible de ramasser et de recoller ? « Je ne suis pas sûr de savoir ce que je ferai, » répond-il à Carmen. « Je veux dire, pour être honnête, je sais ce que j'aurais envie de faire, mais je suis quelqu'un qui croit évidemment en la loi et l'ordre. Si nous étions, je ne sais pas, en pleine nature sauvage, dans un convoi de chariots dans l'Ouest il y a 100 ans, et que quelqu'un faisait du mal à mon fils, eh bien, ouais, il serait aussi mort qu'Abraham Lincoln. »
Elle hoche la tête. « Je pense la même chose, la plupart du temps. C'est tellement facile de dire qu'on tuerait la personne qui aurait fait du mal à notre enfant. Mais il y a des lois et des conséquences. Vous tuez quelqu'un, vous allez en prison. Votre enfant grandit sans vous.
La loi est tout ce qui nous sépare du règne animal.
Est-ce que les parents de cette fille voient les choses de cette façon ?
Il n'y a que la mère.
Et comment est-elle ?
Bobby laisse échapper un petit rire. C'est un sacré numéro. Si j'en avais eu une douzaine comme elle dans mon peloton au début du Vietnam, on aurait probablement pu éviter toute cette guerre à la con.
Nous parlons bien d'une femme, là.
Une femme des cités de Saucy. Ils les font d'une espèce un peu différente, là-bas.
Elle vous plaît ?
Ouais, admet-il, puis voyant le regard de Carmen, non, pas de cette façon, pas comme vous me plaisez, vous.
Alors comment ?
Elle est... Il réfléchit.
Comment décrire Mary Pat ?
Personne n'a jamais dit à cette femme comment laisser tomber. Probable que personne ne lui a jamais dit que ce n'était pas un crime.
De laisser tomber ?
De lâcher prise, de... Je sais pas, moi. De pleurer, de ressentir.
Il réfléchit un instant.
De ressentir quelque chose qui ne soit pas de la colère, en tout cas. Chaque fois que je vois mon fils, je le prends dans mes bras et le serre si fort qu'il se plaint. Je sens ses cheveux et sa peau. Je colle mon oreille contre son dos parfois, juste pour entendre son sang et le battement de son cœur. Je veux dire, il arrive à un âge où il va bientôt en avoir marre, alors j'emmagasine tout ça pendant que je le peux.
Elle hoche la tête, les yeux adoucis, son pouce encore plus doux au creux de la paume de Bobby.
Je parierais que Mary Pat Fennessy n'a jamais été serrée comme ça de toute sa vie,
poursuit Bobby. J'imagine que vous êtes un bon père.
Ne dites de personne que c'est un bon père avant qu'il soit mort.
Elle lève les yeux au ciel et dit
« Ça n'est pas ça, la citation. »
Il lui sourit. « Connaissez le grec ancien ? » ?»«
Je connais mes classiques. Les religieuses y ont veillé. »
« Je n'aime pas les religieuses, » laisse-t-il échapper.
« Je ne les aime pas non plus. » Mais elles sont pas gâtées dans leur boulot. Les curés, ils ont le vin et tous les honneurs. Les religieuses, elles ont quoi? Un couvent? La serveuse apparaît et ils retirent leurs mains pour pouvoir regarder le menu et commander.
Une fois la serveuse repartie, Carmen remet la main sur la table et le regarde en haussant un sourcil. Il lui donne la sienne et elle place son autre main par-dessus.
Est-ce que cette femme a d'autres enfants?
Elle avait un fils, mais il est mort.
Un mari?
Elle en a eu deux. Les deux l'ont quitté, l'un en étant officiellement déclaré mort. Elle retire une main pour boire une autre gorgée de vin.
Donc, s'il est vraiment arrivé quelque chose de terrible à sa fille, qu'est-ce qu'il lui reste comme raison de vivre?
À cet instant, un fantôme traverse Bobby. Il est parfaitement adapté à la taille de son corps et touche chaque centimètre carré de sa personne depuis le sommet de son crâne jusqu'à la plante de ses pieds avant de ressortir par sa poitrine.
« Je n'ai pas la réponse à cela, » dit-il à Carmen.
Après dîner, il la raccompagne chez elle à pied. Elle n'habite pas très loin, à 10 minutes de marche, mais il ne se presse pas, faisant durer la promenade. Il passe sous des arbres au feuillage fourni qui sentent la chaleur du jour, et après qu'ils ont traversé Park Square, les rues s'étendent devant eux comme des canyons de lumière et d'obscurité. Pendant le dîner, il en a appris un peu plus sur le travail de Carmen, qui dirige à Roxbury un centre d'hébergement pour femmes battues ayant fui leur mari, emmenant souvent leurs enfants avec elle. Maintenant, tandis qu'il marche dans les rues par une nuit calme d'été, il lui demande pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle raconte à Bobby qu'elle rêvait de devenir avocate quand elle était petite fille. Elle se souvient même avoir aussi rêvé, à un certain moment, de devenir flic. Mais quand elle est entrée à la fac grâce à une bourse d'études, elle avait encore du mal à joindre les deux bouts, à payer son loyer et sa nourriture. Quelqu'un l'a branchée sur un boulot dans un refuge pour fugueurs. Et là, dit-elle à Bobby, elle a découvert qu'elle avait un don pour convaincre les gens, certaines personnes en tout cas, pas toutes, loin s'en faut, qu'ils avaient la possibilité de changer le cours de leur vie.
« Et vous avez mordu à l'hameçon, » dit Bobby.
Elle lui donne une petite claque sur le bras en signe d'acquiescement.
« J'ai effectivement mordu à l'hameçon. »
« Vous devez voir beaucoup de souffrances dans ce boulot. Des femmes battues. Bon Dieu. »
« Et c'est vous qui dites ça ?»«
Non, 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 » dit-il. « Je vois pas mal de saloperies, évidemment, mais généralement, dans mon boulot, les choses sont claires. Quelqu'un meurt, je vais chercher qui est responsable. Parfois, je l'attrape. Parfois, je ne l'attrape pas, mais je ne vis pas avec l'espoir que l'existence de quelqu'un pourrait devenir meilleure grâce à moi. Vous, devez placer votre foi dans ces femmes qui, la moitié du temps, vont retourner vivre avec ces enfoirés, soit de leur plein gré, soit après avoir été traqués et persuadés par ces types de retourner auprès d'eux. Combien de fois ça finit de cette façon?
Dans plus de 50% des cas, admet-elle. Le tableau est sombre, je ne mentirai pas. Pendant un moment, j'ai cherché la lumière dans la seringue, mais ça a fini par éteindre toute lumière.
Et vous la trouvez où maintenant?
Dans la foi.
En Dieu?
Dans les gens.
Ouf, dit-il en faisant une grimace. Mauvais pari.
Vous ne croyez pas que les gens peuvent changer?
Non, je ne le crois pas. Elle incline la tête et s'écarte de lui de quelques pas.
Comment allez-vous réussir à me mettre dans votre lit avec une mentalité aussi merdique que ça, Bobby, dont le vrai nom est Michael?
C'est juste que je ne suis pas sûre de savoir où l'espoir peut nous mener, parvient-il à dire.
Elle revient vers lui. Vous ne croyez pas ce que vous dites?
Vous avez mis suffisamment d'espoir en moi pour me conduire dans un centre de désintoxication plutôt qu'en prison. C'est grâce à ça que j'ai encore mon emploi. Vous avez suffisamment d'espoir en cette mère de Saucy pour être obsédée par sa situation toute la soirée d'un rendez-vous avec moi. Et j'ai pourtant une allure folle.
Effectivement, admet-il.
Elle s'approche tout près de lui, l'attrape par ses revers et l'attire à elle. Puis elle l'embrasse pour la première fois, un baiser léger, légèrement chaste, légèrement humide, sur les lèvres. Vous souhaiteriez ne pas avoir le moindre espoir, mais vous en avez. C'est pour ça que vous me plaisez.
Elle lâche ses revers et se remet à avancer. Je vous plais ? Demande-t-il. Elle regarde par-dessus son épaule avant de répondre.
Gardez ça pour vous.
Il s'arrête devant la maison où habite Carmen, dans Chandler Street, une brownstone à mi-chemin dans une rue pleine d'autres brownstones, dans un environnement qui n'est pas ce que Bobby qualifierait de zone à forte criminalité, mais il ne dirait pas non plus que c'est une zone à faible criminalité. Comme le reste de la ville aujourd'hui, ce quartier est déchiré par des glissements tectoniques pris entre ce qu'il a été autrefois et ce qu'il n'est pas encore devenu et pourrait ne jamais devenir. Carmen montre une lumière au deuxième étage et dit à Bobby que c'est sa salle de séjour. Leur premier baiser, mis à part, il est entendu, sans que cela ait été dit, qu'il ne montera pas ce soir, et cela lui va très bien. Le temps qu'il a passé au Vietnam lui a brouillé les idées en ce qui concerne les femmes. Il n'y a connu que des filles de bar, des taxi girls et les putes qui arpentaient les larges trottoirs aux alentours de la cité impériale à Hue et qui lançaient leurs invites dans un mélange presque incompréhensible de vietnamiens, de français et d'anglais argotiques qu'elles avaient retenu des films de gangsters américains. De retour aux États-Unis, il s'en était tenu aux stripteaseuses et aux barmaids pendant ses premières années dans la police. Puis, il avait rencontré Shannon, une femme, avec le recul il en était sûr, qu'il n'avait jamais aimée. Shannon était froide, autoritaire et étonnamment dure à l'égard de l'humanité. Et quand elle s'était entichée de lui, Bobby avait pris cela pour le signe qu'il était une personne de valeur. Si quelqu'un qui n'aime personne se met à vous aimer, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un d'unique ? Il tirait une fierté, mais aucun plaisir, d'avoir à son bras une femme aussi belle et aussi impitoyable. Pour être juste envers Shannon, il faut dire qu'il ne lui fallut pas longtemps après le mariage pour comprendre que Bobby ne l'aimait pas. Le problème, c'était qu'elle l'aimait, elle, dans la mesure où Shannon pouvait aimer quelqu'un. Et quand elle s'était rendue compte qu'il ne l'aimerait jamais en retour, son cœur, déjà égoïste, s'était transformé en morceaux de granit. Seul Brendan pouvait y avoir accès, et Bobby se demandait si cela durerait une fois qu'il se mettrait à lui répondre. Après Shannon, Bobby était retourné à des relations sexuelles totalement dénuées de sens. Pas nécessairement avec des prostituées, mais avec des femmes qui ne souhaitaient rien de plus que des relations d'ordre transactionnel, tout comme lui. Quand il était devenu clean, il avait fui tout ce qui déclenchait ses deux prédilections jumelles pour l'autodestruction et le dégoût de soi. Et pendant un long moment, cela avait signifié se tenir à l'écart du genre de femme qu'il avait le plus souvent fréquenté. À présent, devant l'immeuble de Carmen Davenport, tandis qu'il tient ses doigts dans ses mains, qu'elle lui dit qu'elle a passé une belle soirée, qu'il lui répond que lui aussi est... qu'ils se sourient tous les deux, l'air un peu stupide, se demandant s'il ne devrait pas tenter un deuxième baiser. Il comprend que ce qui lui fait peur en elle est ce qui lui fait peur chez toutes les femmes intelligentes, à savoir qu'elle est assez futée pour s'apercevoir très rapidement qu'il est complètement à la ramasse. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne l'a jamais su. Il ne sait pas où il va. Il n'en a jamais eu la moindre idée. Il se sent, au fond de lui-même, comme un tout petit bébé qu'une cigogne vient de lâcher et qui continue à tomber en direction d'une cheminée. Tout ce qu'il montre d'autre au monde n'est que du déguisement. Ils essaient un autre baiser, plus profond cette fois, plus long. Bobby est gêné de sentir un léger tremblement lui parcourir le corps, et il espère que Carmen ne s'en rend pas compte. Bon Dieu, il a quoi ? 12 ans ? Quand elle interrompt leur baiser, elle a les yeux toujours fermés. Il les regarde s'ouvrir, et le vert pâle lui rend son regard avec cette intelligence tranquille qui lui fiche une frousse terrible. « Appelez-moi demain, » dit-elle en montant les marches. « Quand ? » ?»« Faites-moi la surprise. » Une fois qu'elle est rentrée, il attend un instant avant de se diriger vers le métro. Chez lui, il a à peine franchi la porte que sa sœur Erin, l'actuaire, s'avance dans le couloir pour lui demander où il était.
Ben, « Je suis sortie, pourquoi ?»«
Le boulot. Ils t'ont appelé, disons, 5 fois. »
Ils ont laissé un message.
Ouais.
Il attend, mais Erin se contente de le regarder fixement.
C'était quoi le message ?
Encore un regard muet. Erin n'a jamais pardonné à Bobby de lui avoir présenté son ex-mari, ou d'être restée amie avec le pauvre gars après qu'elle l'a quitté. Elle s'éloigne en lançant « Ils ont dit de rappeler !»
Il va à la table du téléphone, se glisse sur le petit siège tandis qu'il compose le numéro. Quand il a Pritchard au bout du fil, il demande
« Qu'est-ce qui se passe ?»«
Tu sais, ce jeune, Rem Collins, qu'on a embarqué l'autre jour. »«
Ouais. »«
Il est là. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Je veux dire qu'il est arrivé en boitant, du sang partout sur son pantalon. Et il a dit qu'il voulait nous raconter ce qui est arrivé à Augie Williamson. »
« Eh ben, prends sa déclaration. »«
Il ne veut parler qu'à toi. »«
J'arrive. »«
Dis, Bobby. »«
Ouais. »«
Il a pissé dans son froc. Je veux dire, littéralement. »« Il a dit que la seule chose qu'on doit lui promettre, c'est de pas le renvoyer dans la rue. »«
Bon, il a dit pourquoi ?»«
Ouais, c'est parce qu'elle y est. »